Vous écoutez France Musique.
Bonjour à tous, c'est le matin les musiciens. En effet, avec le deuxième épisode de notre série Verdi m'a tué, T-U-E-R bien sûr. Bonjour Richard Martet.
Bonjour Renaud.
Vous êtes le patron de Opéra Magazine.
Exactement,
le seul.
Le patron. Je suis le rédacteur en chef d'Opéra Magazine.
Ah, c'est pas vous le patron ?
Bah, c'est moi le patron, mais il y a un patron au-dessus aussi. Vous savez, dans un journal, il y a des financiers, des propriétaires et des journalistes.
D'accord. Et vous êtes mon comparse. Bienvenue dans cette émission. Nous traitons des sujets absolument impossibles et merveilleux. Puisqu'impossible, bien sûr. Et là, grâce à vous, eh bien, je crois que je ne suis pas le seul à découvrir la vie et l'œuvre de deux personnages de la musique lyrique du 19e siècle, Pacini et Mercadante, dont je ne connaissais que Mercadante, je l'ai dit la semaine dernière, et encore pas du tout pour ses opéras, mais plutôt pour sa musique instrumentale. Il y a des concertos pour flûte que l'on connaît, qui sont pas mal joués et enregistrés. Quant à Pacini, c'était un nom, et bien grâce à vous, ça n'est plus qu'un nom. Alors, on résume peut-être ce qui s'est passé la semaine dernière.
Voilà, bon, on a vu deux compositeurs, donc Saverio Mercadante et Giovanni Pacini, nés à quelques mois d'intervalle, puisque Mercadante est né en 1795 et Pacini en 1796, ont vécu très longtemps, très longue carrière, qui ont commencé à peu près à la même période en épigone de Rossini et en répétant, comme disait Pacini, qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse d'autre ? Le dieu de l'opéra, c'était Rossini. Mais si on voulait vivre, il fallait bien qu'on l'imite.
Mais oui.
Et puis petit à petit, qui ont su renouveler leur langage, qui ont en fait eu des itinéraires très très parallèles, très prolifiques, 60 opéras pour Mercadante, entre 70 et 80 pour Pacini, beaucoup de points communs, y compris dans leur évolution stylistique. Et nous nous sommes quittés la semaine dernière, à la fin de l'émission, en 1839. Date clé.
Année charnière,
puisque Pacini sort des 4 années de retraite qu'il s'était imposées pour se consacrer à l'enseignement, tellement il avait été furieux de l'échec de son dernier opéra en 1835. L'année où Mercadante est à son sommet et enchaîne les gros succès, il brave par exemple en 1839 à la Scala de Milan, et surtout 1839, l'année où un certain Giuseppe Verdi crée son premier opéra à la Scala de Milan qui s'appelle Oberto.
Et donc, on finit par comprendre pourquoi nous avons intitulé cette émission Verdi m'a tué, en référence à une célèbre phrase.
Voilà, c'est-à-dire que les épigones de Rossini, rivaux de Bellini et Donizetti, là vont se retrouver avec un gros morceau devant eux et en compétition sérieuse.
Alors, Richard, vous avez puisé dans une discographie qui, heureusement, est assez riche, finalement. Enfin, loin d'avoir couvert l'intégralité de cet énorme catalogue que vous décriviez et dont vous disiez la semaine dernière, je le rappelle aussi, qu'il y a énormément de problèmes pour en retrouver les sources.
Au moins pour les œuvres de jeunesse.
Peut-être pas publiées, le plus souvent sous forme de manuscrits ou de matériel manuscrit.
Les œuvres dont on va parler aujourd'hui ont toutes été publiées. On trouve les autographes au Conservatoire de Naples, puisque le gros de leur carrière... Mercadante, l'année 1840, est nommé professeur directeur du Conservatoire de Naples et va donc pendant 30 ans jusqu'à sa mort rester le directeur du Conservatoire de Naples. Donc beaucoup est à Naples. On les trouve, le problème c'est qu'il faut les éditer, il faut faire un matériel et tout ça peut-être pour un concert avec quelques chanteurs et sans promesse de lendemain, c'est-à-dire qu'en fait le nombre de représentations au 21e siècle va être équivalent à celui du 19e, c'est-à-dire 3, 4, voire une pour certaines œuvres.
Il faudrait l'inverse de la Fondation Brusane, vous savez, qui s'occupe en Italie de la musique française. Il faudrait une fondation italienne qui s'occupe de la musique italienne à Paris.
Voilà,
peut-être.
Mais c'est un peu compliqué. Il y en a. Donc en fait, on a Opéra Rara, la firme britannique, qui depuis le départ se bat, certes pour Donizetti, mais beaucoup pour Mercadante et Pacini. Et on a le festival de Martina Franca, à l'époque où il était dirigé par Sergio Segalini, qui a quand même fait beaucoup, et pour Pacini, et pour Mercadante. Et grâce aux enregistrements faits là-bas, on arrive à avoir un échantillonnage de l'ensemble de la carrière des compositeurs. Mais ce n'est qu'un échantillonnage. Même aujourd'hui, on va parler, Renaud, de titres dont je n'ai pas entendu une note, pas plus qu'aucun auditeur depuis le 19e siècle.
Alors, début saphique.
Non, pas début saphique.
C'est pas Sappho ? Ah bon, d'accord.
Si, c'est Sappho. Donc, je vous disais que...
On peut s'appeler Sappho sans être saphique, c'est ça que vous voulez me dire ?
Ah bah oui, je pense.
Ah bon, d'accord,
oui,
je ne savais pas.
Bah, vous savez, il y a un opéra de Massenet qui s'appelle Sappho et qui n'a rien à voir
d'accord.
avec la poétesse grecque, ni avec l'île de Lesbos, ni pas du tout. Quoi.
D'accord.
C'est... Et donc Pacini, nous l'avons quitté en 1839. Après son retrait des scènes, il revient avec un opéra qui s'appelle Furio Camillo. Nous y voilà. Je n'ai jamais entendu une note de Furio
Camillo. Furio Camillo, c'est quoi
voilà.
C'est Furio Camillo.
Je ne sais pas ce que c'est. C'est l'opéra avec lequel il revient en 1839.
Après Orlando Furioso, on a Camillo Furioso.
Et donc, aussitôt après...
Ça vous fait rire, c'est déjà ça.
Aussitôt après, arrive Sappho. Alors Sappho, c'est un opéra extrêmement important dans la carrière de Pacini. Il l'appelait lui-même « la mia figlia prediletta », c'est-à-dire « ma fille préférée ». Parce que ça a été son plus gros succès quasiment de son vivant avec l'Ultimo Giorno di Pompei dans la première partie de sa carrière. Et surtout, ça s'est maintenu à l'affiche jusqu'à la fin du XIXe siècle, relativement de matière relativement correcte. Et surtout, c'est ce qui a vendu Pacini au XXe siècle, puisqu'en 1967, année du centenaire de la mort de Pacini, le San Carlo a voulu ressusciter Sappho et, pour donner toute son ampleur à l'événement, engager Leyla Gencer.
D'accord.
C'est donc voilà.
C'est
donc
Leyla, c'est ça, non,
oui,
enfin.
Turc. Mm-hmm. C'est donc Leyla Gencer, grande donizettienne, grande verdienne, qui a vendu Sappho au public du XXe siècle. Et par là même, on a réentendu du Pacini au XXe siècle. Donc, on va entendre la soirée du San Carlo de Naples en 1967, avec Leyla Gencer, dans le final du premier acte de Sappho. Donc c'est l'histoire de la poétesse grecque, c'est vraiment un sujet néoclassique à une époque, mais on en reparlera tout à l'heure, où il devenait un peu moins populaire. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est aussi un souvenir personnel, puisque nous avons fini l'émission précédente sur ce qui m'a fait découvrir Mercadante,
oui.
Le duo des Due Illustri Rivali, par Mirella Freni et Renata Scotto. Mm-hmm. J'ai découvert Pacini, les premières notes de Pacini que j'ai entendues, c'était Leyla Gencer en récital à l'Athénée,
ah
à
oui.
Paris, dans le cadre des lundis musicaux de l'Athénée, vous vous souvenez,
bien Renaud,
qu'organisait Pierre Berger,
oui.
Et où défilaient plein de grandes cantatrices.
Enfin, j'y allais pas parce que j'habitais pas à Paris, mais bon. Mais...
Voilà,
on
et un soir,
tous.
Leyla Gencer, elle a fait plusieurs récitals à l'Athénée, et lors d'un de ces récitals, elle a chanté le morceau que nous venons d'entendre, que nous allons entendre, évidemment, uniquement l'introduction où elle est seule, transformée en air. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est beau ça, je veux en savoir plus sur ce compositeur. Thank you.
Ça a l'air d'être enregistré depuis le sac à main de quelqu'un au troisième rang, non?
On en s'en moque.
La magie, c'est un pirate.
C'est un pirate, évidemment. Ah, oui, la magie, Leila Guinchère, opère à plein. En plus, en 1967, elle chantait. Elle était en pleine possession de ses moyens, beaucoup plus que quand je l'ai vue à l'Athénée au début des années 80. Mais d'abord, je trouve cette phrase musicale magnifique. C'est tellement beau, cette musique. Il y a tellement de flammes, de feu. Moi, c'est exactement ce que j'aime.
Mais alors, qu'est-ce qui la différencie de... Parce que là, on est dans quelque chose qui semble familier, mais vous me direz, les compositeurs, on en a parlé beaucoup la semaine dernière, sont toujours dans une sorte de terrain commun. Là, moi, j'ai l'impression d'entendre déjà du Verdi, mais c'est parce que Verdi, évidemment, se référait lui aussi dans sa jeunesse.
Voilà, vous entendez du jeune Verdi, vous entendez aussi du Donizetti.
Il n'y a plus de Rossini, là. Enfin, en tout cas, pas le Rossini qu'on évoquait la semaine dernière, on est bien d'accord.
Il s'était retiré en 1929, oui, voilà. Quand même. C'est 11 ans après le retrait. En revanche, en 1840, Donizetti est toujours actif. Mm. En revanche, Donizetti, il est parti à Paris. Rossini s'est retiré 11 ans plus tôt. Bellini est mort en 1835. Et Donizetti est parti à Paris depuis 1838. Donc, en fait, la voie est libre
en Italie.
Elle est libre pour le moment. Pacini et Mercadante ont un boulevard. Qu'est-ce qui arrive? Voilà qu'arrive Verdi.
Ça me fait penser, je reprends cette comparaison avec la musique britannique. En plus, on va faire une quinzaine britannique bientôt sur France Musique. Ça me fait penser à ça. C'est-à-dire qu'il y avait Elgar et Vaughan Williams. Et la première génération des modernes, Walton, entre autres, arrive. Et puis, tout d'un coup, il y a Britten. C'est vraiment la même chose. Il y a un parallèle. Chose. Ça a dû se passer très souvent, je pense, dans l'histoire de la musique.
Ça s'est passé assez souvent même. Et ça a été leur malchance. Parce qu'ils ont quand même joué de malchance. Et après, on verra tout à l'heure ce qui les sépare vraiment de Verdi avec une étude comparée.
Il n'y a qu'une version ? Il n'y a que cette version au son un peu problématique ?
Il y en a une autre captée au Festival de Wexford.
Oui.
En Irlande. Alors, il faut remercier aussi. Je parlais d'opéra rara.
Incroyable, cet endroit.
Oui, endroit incroyable. Je parlais d'opéra rara et du festival de Martina Franca. Mais n'oublions pas le festival de Wexford qui a fait beaucoup pour Mercadante et Pacini.
Pour les raretés.
Ils ont fait Elena d'Alfeltre de Mercadante. Ils ont fait Virginia de Mercadante que j'étais allé voir. Et ils ont fait Sappho de Pacini aussi. Ils ont beaucoup œuvré aussi. Problème, Renaud, l'éternel problème, c'est qu'ils œuvrent sans lendemain, quoi. C'est-à-dire que depuis Wexford, je ne suis pas certain qu'il y ait eu beaucoup de théâtre qui ait refait. Je ne veux pas m'avancer en disant qu'aucun l'a fait. Hein.
Non, parce qu'on
va
toujours,
me dire que dans un festival aux États-Unis ou comme ça, on a fait Sappho ou Virginia. Mais on ne peut pas dire que ça se soit fait beaucoup quand même.
Non, non. Alors, puisque nous n'avons pas séparé nos deux comparses, Pacini et Mercadante, on en arrive à Mercadante maintenant, mais avec une mélodie, c'est ça?
Voilà, alors je vais vous expliquer pourquoi. On n'a pas eu le temps d'avoir la semaine dernière d'en parler. C'est le séjour de Mercadante à Paris en 1836, quand Rossini l'appelle, comme il avait appelé Bellini, comme il appelle Donizetti, il faisait venir ses compatriotes italiens.
Ce qui est généreux, non ?
Ce qui est généreux, il était d'abord directeur.
Pas de coup fourré derrière, non ?
Pas du tout. Mais il ne composait plus.
Et oui, c'est ça.
Il écrivait des pièces pour ses amis. Donc, lui était directeur du théâtre des Italiens, théâtre italien à Paris, puis conseiller artistique, et donc il les faisait venir. Et Mercadante vient à Paris en 1836. En fait, il arrive en 1835 au moment où meurt Bellini. Et il suit le cortège funéraire de Bellini au Père Lachaise.
Avec un sourire en coin ou quand même
non,
pas ?
Non, c'était un gentil. Oui. Pacini, Pacini, je l'ai déjà dit la semaine dernière, était pas vraiment un gentil. On en reparlera vers la fin de sa vie où il n'était pas du tout gentil avec Verdi même, mais ni avec personne. Non, Mercadante, c'était un gentil. Et donc, il compose un opéra pour Paris qui n'a qu'un succès d'estime, qui s'appelle I Briganti, qui est créé début 1836, qui, avec le même quatuor que les Puritains, c'était peut-être ça. Pas la bonne idée. Les Puritains avaient été un tel triomphe. Bellini venait de mourir, lui-même lui mettre les mêmes chanteurs sur un livret faiblard, I Briganti, c'est vraiment pas terrible. Sabbat Wilbad en Allemagne l'a fait il y a 2 ans, je crois. Donc voilà, il s'est un peu planté, mais en revanche, il est reparti. Mais il avait découvert les opéras français de Meyerbeer.
Eh oui.
Il avait découvert La Juive, notamment. Il avait découvert Robert le Diable. Et ça l'a beaucoup inspiré pour la suite. Donc, avant de vous faire écouter un Mercadante de retour en Italie après Paris, je voulais vous faire entendre en clin d'œil un écho de Mercadante à Paris, puisqu'il a composé pour les salons. Vous savez, c'est l'époque où on composait beaucoup pour les salons.
En français aussi, j'imagine, non ?
Là, c'est en italien. Ça s'appelle les soirées italiennes, sur le modèle des soirées musicales que Rossini composait. Vous savez, il a composé des pièces pour piano, des pièces pour chanteurs, énormément pour les salons. Mercadante a composé un cycle qui s'appelle les soirées italiennes. Et vous allez en entendre un extrait, la Serenata del Marinaro, par William Matteuzzi. Encore un disque opéra rara. Et c'est une mélodie qui a été écrite pour le ténor Chollet. Chollet, pour le situer, c'est le plus grand ténor d'opéra comique français de la première moitié du 19e siècle. C'est le créateur de Fra Diabolo, de Zampa et du Postillon de Longjumeau.
Ah, tout de même.
Oh, qu'il était beau le Postillon, le contre-ré imitant la corne du Postillon, ça c'était Chollet.
Encore la technique d'avant ou bien déjà la technique pleine voix ?
Je ne suis pas du genre à faire tourner les tables, Renaud, donc je ne sais pas. Je n'ai pas d'enregistrement de Chollet en 1800, j'en sais rien.
C'était juste pour faire le malin.
Je ne sais pas comment il chantait.
Un extrait des soirées italiennes de Saverio Mercadante. C'était la sérénade du quoi Marinaro, c'est un marinier, marin, tout simplement, j'imagine. Marinier, c'est pareil.
Traduction comme ça.
Oui, oui. William Matteuzzi, ténor, et David Harper, au piano, un disque opéra rara, dont vous disiez.
Toujours.
Toujours opéra. C'était d'une importance majeure, évidemment.
Et en
pour
plus,
cause,
eux,
ils sont les seuls, souvent.
Voilà, et contrairement aux autres, souvent, c'est quand même des disques de studio. Donc avec une qualité sonore appréciable, et pas ce que vous avez entendu pour ça, faux tout à l'heure.
Et puis délivré, très luxueux, très documenté. On sent qu'il y a un peu d'argent derrière tout ça, quand même.
C'est la Peter Moose Foundation.
Voilà, il y a une volonté vraiment de patrimoniale que je trouve formidable. Richard Martin. On revient alors à ce Saverio Mercadante, compositeur d'opéra, donc qui se rencontre sur la scène parisienne, évidemment, le fameux Meyerbeer, dont on va s'occuper dans quelques semaines,
2014,
quelques mois. En 2014, on va s'en occuper de Meyerbeer. Voilà. Pas ce Meyerbeer-là, d'ailleurs. Meyerbeer vraiment méconnu pour le coup.
Voilà.
Qu'est-ce qui se passe alors? Évidemment, les compositeurs qui se retrouvaient à Paris à cette époque se trouvaient confrontés à ce genre.
Voilà. Hein, d'accord. Ils n'avaient pas besoin de découvrir Bellini, Rossini, parce que ça, ils connaissaient. En revanche, ils découvraient un genre qui était le grand opéra à la française, avec ses processions, ses grands ensembles, ses marches, ses cortèges,
ballet,
ses ballets.
Bien sûr.
Voilà, Mercadante a découvert tout ça. Et on en entend l'influence dans ces opéras des années 1840-1850. Ça s'entend dans la Vestale. L'année où Pacini compose Sappho, Mercadante compose une Vestale.
Oui.
Référence évidente à Spontini, avec, comme toujours, la nostalgie du néoclassicisme. Mais on y viendra plus tard. Mais venons-en, restons dans le cadre du grand opéra qui aurait influencé Mercadante. Et ça s'entend beaucoup dans un de ses plus gros succès des années 1840, qui est Orazi e Curiazi. Les Horaces et les Curiaces. Encore un sujet néoclassique, nous sommes en 1846, et j'ai choisi de vous faire entendre le finale primo, donc le final du premier acte, où vous allez voir comment ça s'appelle un concertato. Il faut que j'explique ce que
oui,
c'est un
bien
concertato.
Sûr, il faut non, tout absolument. Expliquer.
Un concertato.
Il y en a qui savent, voilà. Parmi nos auditeurs, mais il y en a qui ne voilà. Savent pas. Et moi au milieu qui alterne un peu entre les deux.
Un grand ensemble, c'est un concertato, c'est un grand ensemble où en général tous les solistes de l'opéra se retrouvent avec les chœurs. C'est un des solistes principaux qui commence, puis un autre qui prend le relais et tout le monde. Et ça monte jusqu'à des paroxysmes et des paroxysmes. Il y en a un qui est très connu, c'est celui du Barbier de Séville à la fin du premier acte. Le concertato est toujours déclenché par un coup de théâtre. Toujours. Toujours. Il y a un coup de théâtre, ça peut être un coup de foudre qui tombe voilà. Du ciel, ça peut être n'importe quoi.
Le hop, retour d'un personnage.
Voilà, le
exilé.
Retour d'un personnage. Lucie de la Mermoz, le sextuor de Lucie de la Mermoz. Voilà, Edgardo revient, hop, ça déclenche un concertato, le fameux sextuor. Donc à chaque fois, c'est ça. Et là, on va entendre comment ça existe dans l'opéra français aussi. Ça existait chez Meyerbeer, chez Halévy, en très développé, beaucoup plus que dans le Barbier de Séville ou chez Rossini. Et en fait, Mercadante, il a tout mis ensemble, et ça fait des espèces de monuments. On va attendre le concertato du final de l'acte 1 qui dure 8 minutes 38.
Renaud. C'est beaucoup par rapport à d'autres.
Vous verrez après, je vous ferai écouter un concertato de Verdi et vous comprendrez tout ce qui différencie les autres. Là, 8 minutes 38, c'est très très long. Il y a plusieurs motifs mélodiques qui s'enchaînent. Ça monte. Et comme dit un des détracteurs de Mercadante, l'un de ses objectifs, on a toujours l'impression, c'est faire monter la pression jusqu'à ce que la soprano doive hurler au-dessus des cuivres, au-dessus
bien
des
sûr.
Chœurs, au-dessus de tous ses partenaires. Mm-hmm. Il faut encore qu'elle hurle au-dessus. Et là, c'est l'extase pour Mercadante. C'est pas faux et vous allez l'entendre.
C'est un peu sexuel l'opéra tout de même, il faut bien le dire.
Thank you. mia sorte.
les Horace et les Curias. Quand il y en a plus, il y en a encore, j'ai envie de vous dire, Richard Marté, dans ce final de Saverio Marcadante de 8 minutes.
8 minutes 50, 8 minutes 38.
8 minutes 38.
Ah oui, c'est quand même un record. Hein. Je pense qu'il a
surtout
fait.
Ça paraît un peu deux fois plus long.
Oui, bah c'est en fait, je l'ai choisi parce que moi, j'adore ça. Hein, soyons
clairs. Ça, j'ai compris, oui.
Mais c'est presque. N'ayez pas honte. C'est la démonstration de ce qu'est un concertato pour Marcadante, d'un grand ensemble de fin d'acte, mais c'est quasiment une caricature. C'est-à-dire, c'est tout ce que ses détracteurs reprochent à Mercadante. C'est-à-dire, chaque fois qu'on croit qu'il a fini, hop, il y en a encore un bout,
et ça se rajoute.
Il y a cet effet systématique, parce que tous ses opérants sont construits comme ça. Virginia, qui a été composée 3 ans après Horatii et Coriati, c'est pareil. Vous avez une scène finale dans Virginia où il y en a 2 comme ça, chacun de 7 minutes. Et chaque fois, ça démarre avec la soprano, puis après, l'autre vient se rajouter, et puis le chœur arrive, et puis une nouvelle ligne mélodique. C'est des lignes mélodiques qui s'enchaîne et puis qui monte et il y a toujours le hurlement.
C'est une convention, mais l'opéra n'est que convention. Et je dis ça sans la moindre ironie, puisque justement je crois que la permanence, on va dire, de l'invention se situe justement dans la capacité qu'ont les compositeurs à réinventer le lieu commun.
Et Mercadante revendiquait ça. Il aimait donner le temps au temps, il aimait donner à la mélodie le temps de se développer, la répéter, comme on vient de l'entendre, au besoin 2 fois, 3 fois, 4 fois, la confier, que tout le monde en profite bien. Et c'était vraiment sa technique de composition. Pour bien comprendre pourquoi Verdi ne pouvait que le tuer, il n'y a pas d'autre thème, on va écouter le final du premier acte au même moment d'Attila, composé la même année qu'Horatii et Coriati, c'est en 1846. Et sans même parler de la durée, c'est moitié moins, vous allez comprendre comment Verdi, lui, avançait.
Fermate,
Le final d'Attila de Giuseppe Verdi, avec notamment Ruggero Raimondi, qu'on vient d'entendre. Mais j'avais envie de faire une remarque, tout qui chante affreusement mal dans ce disque.
Je trouve pas, non, pas.
C'est une raideur. Mon Dieu, c'est pas musical tout ça. Mais enfin bon, on a que ça. J'imagine. Non, il y a plein de versions d'Attila.
Il n'y en a pas 50 000 en studio.
Enfin, il y en a quelques-unes, oui.
Oui, oui.
Enfin, ça, c'est la fameuse version Philips. Que...
C'est la version Philips de la série des opéras
voilà.
de jeunesse.
Voilà, je parle en Berthaud Gardel.
Oui, côté direction d'orchestre, Riccardo Muti est mieux.
Ah, mais ça ne fait aucun doute. Oui. Ça fait aucun
mais là, il y a quand même dans l'ensemble, et on l'entendait bien, il y a Carlo Bergonzi.
Oui, c'est... oui, c'est pas mal. Dites-moi, j'ai peur de dire une bêtise, une de plus peut-être. Mais moi, j'ai envie de vous dire, c'est moins bien musicalement que ce que j'ai entendu tout à l'heure dans le final des Horaces et des Corias de Monsieur Mercadante.
Ah bah, moi, il n'y a pas photo. Hein.
Ah, c'est-à-dire, vous trouvez aussi ?
Musicalement, je préfère Horace et Curias. Simplement, mais même en tant qu'opéra, je préfère Horace et Curias à Attila,
oui.
qui est quand même un Verdi de jeunesse. Il était
oui,
encore
oui, oui,
dans
sûr.
Une période où il composait très vite. Il y a des choses formidables. Simplement, la grande différence, c'est deux fois plus court.
Oui.
Ça va deux fois plus vite. Mercadante est figé.
Et ça ne fonctionne pas pareil non plus.
Non
hein.
plus.
Il n'y a pas cet effet de couche que vous décriviez.
Absolument
hein.
pas. Absolument pas. Verdi ne voulait pas l'effet de couche. Lui voulait aller le plus vite possible vers la conclusion du drame. C'est un coup de poing, la musique de Verdi. Mercadante, c'était pas du tout le... Mais Pacini non plus. Le coup de poing, c'était pas leur truc. Eux, ce qu'ils aimaient, c'était se poser, s'installer dans une mélodie et la pousser jusqu'au bout. C'est vraiment un raisonnement mental complètement différent.
Mmh.
Et c'est pour ça qu'à une période où de Risorgimento, où l'opéra italien épousait strictement l'explosion sociale, c'est la période de la révolution industrielle. Il ne faut pas oublier
Et
ce
oui,
que c'est.
Bien sûr.
Les années 1830-1840, c'est le train. Tout va plus vite. Mercadante, on a l'impression qu'il n'a jamais pris le train. Quoi. Il en est resté à la voiture à cheval. Je pense que ça, c'est assez, la comparaison vaut assez. C'est-à-dire quelqu'un qui est encore dans des formes anciennes, qu'il fait évoluer remarquablement grâce à l'influence du grand opéra, mais il n'est pas dans la bonne vitesse. Quoi. Et ça se remarque, par exemple, Orazi et Curiazzi, musicalement, je préfère sur l'ensemble. Mais Attila démarre à fond. Vous avez cette entrée d'Odabella, Santo di Patria, qui vous met dans le drame tout de suite. Orazi e Curiazzi, le temps que ça démarre, il faut 25 minutes.
Et le public, qu'est-ce qu'il aimait dans tout ça ? Il préférait... est-ce qu'il était horrifié par la nouveauté ?
Alors, Orazi e Curiazzi a été un énorme triomphe. Énorme. C'est tôt 1846 quand même. Virginia, 20 ans plus tard quand ça a été créé, 1866, a eu beaucoup plus de problèmes. Ça ressemble à Orazi e Curiazzi. Et les gens ont dit, c'est plus notre... Ils n'ont plus senti leurs préoccupations.
Ouais.
Puis cette obsession du néoclassicisme qu'avait Pacini, comme Mercadante. Virginia, Statira, Pacini a composé un opéra qui s'appelle
Donc,
Merope.
Par néoclassicisme, répétons ce que
des
nous disions la semaine dernière,
voilà,
c'est-à-dire un retour...
Des sujets antiques.
Des sujets antiques et aussi une langue musicale qui revenait un peu à l'esprit de Gluck.
À Cherubini hein et Spontini. Comme par hasard, Pacini a composé une Médée et Mercadante a composé une Vestale. C'est pas un hasard.
Oui.
Vous voyez Verdi composer une Médée ou une Vestale. Verdi, il avait une telle intuition qu'il savait bien que c'était plus les sujets néoclassiques, c'était fini.
Oui, oui.
Il fallait s'adapter à son temps.
Alors, nous continuons.
Nous continuons.
Cette exploration que nous faisons depuis la semaine dernière de Mercadante et Pacini, alors là, ça s'appelle Alan Cameron.
Voilà, alors ça s'appelle Alan Cameron. Alors on est deux ans plus tard, en 1848, c'est de Pacini. C'est un opéra qui n'a eu aucun succès, qui
Bien.
Est tombé complètement à plat. En plus, en 1848, vous savez, c'est les grandes révolutions en Europe, les soulèvements. C'est une espèce de livret complètement invraisemblable qui se passe pendant... un peu ressemblant un peu à
plus
celui
que
des Puritains.
Vous voulez dire.
Oui, mais ressemblant un peu à celui des Puritains, sans aucun écho patriotique, sans rien qui puisse faire écho à l'époque. Et surtout, là, je vais vous faire entendre un truc qui, moi, m'a sidéré la première fois où je l'ai découvert. C'est comment, en 1848, Pacini a pu terminer avec une cabalette tellement rossignée. C'est-à-dire, elle a 25 ans de retard, quoi. Et manifestement, ça ne lui est même pas venu à l'idée. C'est-à-dire, il y a aussi, moi j'appelle ça presque de la négligence de la part de Mercadante et Pacini, c'est-à-dire une incapacité à comprendre, à s'adapter à leur époque et en fait à camper sur leur certitude.
Mais est-ce qu'il y a du public pour ça ?
Pour
ce type de musique avec 25 ans de retard, au fond, si
eh bien, en fait, non.
Oui.
La démonstration a été qu'en 48,
ça n'a
eu aucun succès.
C'est ça.
Ça plaisait plus. Vous allez entendre la cabalette finale de Editha dans Alan Cameron.
Editha.
On se croirait dans un opéra de 1825, comme on se croirait dans l'Ultimo Giorno di Pompei, comme on en a écouté la dernière fois.
Editha nous chanter sa cabalette et son air final de l'Alan Cameron de Giovanni Pacini qui date de 1848. Annick Massis, soprano, l'orchestre philharmonique de Londres dirigé par David Perry qui fait partie aussi de cette assez vaste série d'enregistrements qu'a fait la collection britannique Opéra Rara. Alors, j'ai envie de vous dire, Richard, pour essayer de défendre ce pauvre Pacini, il n'a pas besoin de moi d'ailleurs, puisque c'est plutôt vous qui le défendez.
Absolument, pas là.
Mais vous disiez tout à l'heure qu'il utilisait un langage musical qui est un petit peu désuet pour l'époque. Ouais. Mais finalement, dans Rigoletto, Verdi, Claire de Gilda, va employer à peu près le même vecteur. Je dis bien le même vecteur, je ne dis pas que les musiques se valent. C'est vrai qu'on n'est pas du tout au même niveau. Mais comme quoi, le problème n'est peut-être pas la forme ou le vecteur, mais le fond et la matière qu'on y insuffle.
C'est le sens qu'on y donne, et surtout. Oui, c'est-à-dire, là, on ne comprend pas la raison d'être. Elle est contente, en fait, parce que ses armées, les armées ont gagné, et le roi d'Écosse va être rétabli sur son trône, et donc ça, c'est ce qu'elle nous raconte.
C'est ce qu'elle nous raconte, là.
Voilà. Mmh. Mais en fait, on s'en fout complètement.
Un peu, oui.
Elle raconte ça à la fin. L'air de Gilda, il n'est pas à la fin. Mais surtout, l'air de Gilda, chaque vocaliste...
Ça me vient à l'esprit comme cela. Voilà, hein,
mais chaque vocaliste de l'air de Gilda est intégré dans un contexte dramatique et traduit le rêve de l'héroïne et surtout c'est pas à la fin. Comment peut-on en 1848 finir un opéra comme la Donna del Lago?
Oui, mais c'est aussi Jean-Michel Damaz faisant en 1970-71 un très très bel ouvrage de facture classique néo-poulenquienne, alors qu'il y a du théâtre musical, alors qu'il y a Les Soldats de Zimmermann, alors qu'il y a... C'est ça, c'est toujours cette même... Et au fond, ce qui reste, ce ne sont pas les langages et les styles. Ce qui reste, ce sont les bonnes musiques. Hein, encore
absolument.
L'histoire de Brahms Wagner, enfin encore une fois.
Là, en plus, c'est une jolie musique. On comprend que Pacini avait gardé la main. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous expliquais, on le surnommait « il maestro delle cabalette »,
le maître des cabalettes.
Voilà, et là, on entend qu'il reste le maître des cabalettes. Elle est... Puis en plus, c'est là encore, j'ai choisi ça pour montrer comment Pacini a pu être caricaturé à partir de morceaux comme ça, notamment cette espèce de frivolité, vous savez. Voilà, exactement, je ne voulais pas chanter, mais exactement.
Demandez-moi, il n'y a pas de problème.
Confié au vent à chaque fois, ces petites ponctuations, ces virgules que Rossini affectionnait beaucoup, mais dans les années 1810, c'était quelque chose. En 1848, c'est fini. Et pour vous le démontrer, écoutez ce que Verdi fait en cette même année 1848. La scène finale d'Il Corsaro, créée en 1848, qui n'a pas eu un gros succès pour des raisons diverses et variées. Mais Verdi n'aurait jamais fini comme Pacini et Alan Cameron. Et voilà la scène finale d'Il Corsaro.
Thank you.
Alors là, je vous le concède, enfin, je n'ai pas besoin de vous le concéder d'ailleurs, Richard Martet, avec cette scène finale du Corsaire, également de 1848.
Oui.
On est dans toute autre chose là. Il y a une matière musicale, évidemment.
Il y a une matière musicale,
puis il
y a une
porte.
Mais ça avance
très,
surtout.
Très loin. Cameron.
Je ne connais pas Alan Cameron en entier, mais connaissant maintenant un certain nombre d'opéras de Pacini, non seulement ça se finit lentement, entre guillemets, ça se finit sans bouger, mais je suis sûr que ça commence sans bouger, comme la plupart des opéras de Pacini, où les 30 premières minutes, comme ceux de Mercadante, et vous cassez les pieds. Il n'y a pas moyen. Ça démarre en général au final du premier acte. Mais comme leur opéras souvent sont longs, c'est un peu décourageant en plus aujourd'hui. Vraiment un peu décourageant.
Oui, je peux comprendre. Le corsaire Jesse Norman.
Jesse Norman,
eh oui,
absolument.
On a oublié qu'elle chantait ce répertoire.
Ah oui, au début des années 60. Elle a fait Aïda à
elle
Paris,
chante, elle,
pas,
en revanche, par rapport à la personne de tessiture basse. C'est de nationalité italienne que j'ai... J'ai jamais compris, moi. Mais enfin, bon, bref. Jesse Norman, si, parce que ça, c'est vrai. Ça, c'est une voix. Hein, Allegato.
Ouais, c'est l'époque où elle faisait la comtesse des Noces de Figaro. Oui, elle faisait l'Africaine de Meyerbeer. Mmh. Elle faisait Aïda. Et elle enregistrait Il Corsaro de Verdi. Elle enregistrait aussi Un Giorno di Regno dans la même série des opéras de Genève.
Toujours dirigé par Lamberto Gardelli.
Voilà, c'est la facette de Jesse Norman qu'on connaît moins bien. Et Carreras est absolument irrésistible. À cette époque-là, avant qu'il aborde des rôles trop lourds pour lui, moi, je trouve que c'est d'une séduction.
Absolument.
D'une spontanéité
absolument
époustouflante.
Alors, on va passer à notre dernier extrait. Oui, le temps passe vite, malgré ces finales. Mais non, grâce aux finales de Verdi, qui sont ramassées. Celui-là, il faisait quoi? Il était aussi de 4 minutes, non?
Oui, ah non, mais jamais Verdi n'aurait
jamais
duré 8.
Mais c'est drôle, parce que...
C'est... Jamais.
Mais le temps musical, parce que tout à l'heure, hein, le final de Pacini, dont on s'est un petit peu moqué, mais qui était musicalement assez intéressant, Mercadante, durait 8 minutes. Enfin, je disais en rigolant qu'on donnait un peu l'impression de durer le double. Hein. Donc, on peut aussi donner l'impression
Mais c'est cette idée de vouloir développer la mélodie. Il y a un moment, ça trouve sa limite. Quoi.
Oui.
Et surtout, c'est fin à tiroir. Quoi. On croit que c'est fini, mais non, il y a encore une coda. Et puis non, il y en a encore une. Et puis, moi, j'aime, mais je comprends qu'on puisse... Et les auditeurs de l'époque, en fait, ça a eu du succès sur le moment. Et puis après, c'est tombé dans l'oubli, parce que de toute façon, Verdi balayait tout. Et qu'est-ce qui a surnagé Donizetti et un ou deux Mercadins de Pacini?
Alors, on va terminer avec Pacini.
Oui.
Un Pacini de 1843.
Voilà, on revient un peu en
arrière.
Ah, c'est mon Pacini préféré, en fait.
Vous avez gardé le meilleur pour la fin.
Voilà. Parce que ça s'appelle Maria Regina d'Angleterre. C'est la plus belle scène finale.
Mary Queen of England.
Voilà. Oui, non, mais c'est la Marie Tudor.
Ah, d'accord.
On l'a longtemps appelée Marie Tudor, cet opéra, d'ailleurs. Mais son vrai titre, c'est Maria Regina d'Angleterre. Ça a été un beau succès à Palerme en 1843. Alors là, c'est un résumé de Pacini. Je ne peux pas vous le faire écouter en entier, l'opéra. Ça démarre...
Je sens que vous le regrettez.
Non. Le premier acte
est insupportable. Vous voyez une troisième émission.
Il y a trois CD. Hein. Le premier CD qui fait le premier acte est insupportable. C'est pas qu'il y a de la vilaine musique, ça démarre pas. Verdi, lui, il aurait déjà été dans l'action dès les 10 premières minutes.
Oui.
Lui, non, ça tire, puis on sait pas. Il y a des chœurs de suivantes, des gens qui viennent raconter ce qu'ils ont fait dont on se fout, des comparses. Ça démarre pas, quoi. Mais en revanche, ça monte, ça va crescendo, comme les opéras de Mercadante d'ailleurs. Et à partir du final du 2, ça devient vraiment génial. Et le troisième acte de Maria Regina d'Inghilterra est, pour moi, sublime. Donc vous allez entendre. Et ça, ce qu'on reproche à Pacini, qu'on entendait d'Alan Cameron, cette frivolité. Les Anglais disent « frippery ». Voilà, cette frivolité qu'il y a, parce qu'il y a eu beaucoup d'études anglaises sur Pacini, plus que françaises, je vous rappelle. Parce que les études françaises sur Pacini, il n'y a pas eu énormément. Et là, vous allez voir la scène finale de Maria Regina d'Angleterre, avec la marche funèbre, le duo des deux femmes, une cabalette finale très originale. C'est beau de bout en bout.
Dare ragione.
La scène finale de Maria Regina d'Inghilterra, en italien, avec un gros accent français. C'est de Giovanni Pacini, c'est magnifique.
Magnifique, je vous l'avais dit, Renaud.
Mais c'est oui, c'est vraiment beau.
C'est sublime, c'est cette reine qui devient, pas qui devient folle, mais qui, après avoir fait exécuter son amant, on a entendu la marche funèbre de l'amant partant vers l'échafaud.
On a entendu,
on a entendu la chute de la hache, et donc on a tout entendu, et qui part dans une espèce d'extase mystique. La cabalette est apparemment rossinienne, pour finir, et en fait, elle ne l'est pas du tout. Elle est extrêmement originale. Chef-d'œuvre absolu.
Eh bien, avec ces deux émissions, j'espère qu'on aura donné envie à nos auditeurs d'aller voir d'un peu plus près chez Pacini et Mercadante, et de voir si Verdi les a vraiment tués.
Oui.
La réponse est la vôtre, et je pense que vous avez un peu raison. Et on demandera à Cécile Gissot et à Emmanuel Rose, à Paul Simonacci, à Flora Sternadel et à Géraldine Prüttner qui nous enterraient ce qu'ils en pensent. Merci Richard Martin.
Merci Renaud Machard de m'avoir invité.
Oh, avec plaisir.